With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Mesdames et messieurs,
êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Non, mais l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de la bagarre. Un podcast où, vous savez, on aime bien faire s'opposer des choses qui n'ont pas forcément raison valable et logique de s'opposer, juste pour le plaisir du sport, pour le plaisir de la bagarre, pour l'odeur du sang. Aujourd'hui, ça va être un affrontement tout musical qu'on va faire avec mon invité du jour, David Rampillon. Bonjour David, comment ça va?
Bonjour Martin, ça va et toi?
Ben, ça va très bien. Alors, je t'ai annoncé avant d'annoncer le sujet, j'ai dit musique, je dis aussi ciné, donc ça va être comment on peut dire, Il Maestro contre The Master?
Ouais, on peut carrément dire ça, ouais. Ouais.
Donc, John Williams, compositeur émérite que vous connaissez pour un milliard de musique de film de Star Wars et Indiana Jones, va se frotter à Ennio Morricone, l'homme de Bon, la brute et le truand, de Il était une fois dans l'Ouest, des huit salopards, de The Thing, enfin bref, de tout un tas de choses. Dis-moi David, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette galère? J'ai oublié de préciser que quand tu faisais pas des podcasts absurdes avec moi, tu faisais aussi d'autres podcasts et que tu composais de la musique, c'est bien ça?
C'est ça. C'est exactement ça, c'est mes deux grandes passions. Et aucune ne paye. Pas assez en tout cas.
Ah oui, non, la musique et les podcasts, pour devenir riche, c'est compliqué.
La musique, ça m'a plus rapporté pour l'instant. Et j'espère que. Mais pas encore de quoi être une star, tu vois.
Mais il y a une légende sur quelqu'un qui gagne de l'argent en faisant des podcasts, je sais pas si c'est vrai ou pas.
On en parle depuis des années, je crois qu'il y a des gens qui font tout un festival en parlant de cette personne tous les ans sur Paris, mais ils cherchent encore, quoi.
C'est le DAU.
Ça doit être ça.
Enfin bref, alors qu'est-ce que tu composes comme musique, comme genre de musique?
Un peu de tout, ça dépend du projet qu'on met entre mes mains, parce que je fais de la musique sur mesure. Donc ça peut être pour de la publicité, pour du court, du moyen, du long métrage, du jeu vidéo, de la saga audio dernièrement. Donc je m'adapte et j'essaye justement de pas me bloquer dans un style, même s'il y en a certains où clairement j'aurais plus de mal.
Mais d'accord.
Voilà, tout ce qui peut être un peu jazzy, j'aurais un peu plus de mal par exemple.
D'accord. Donc tu serais plus Morricone que Williams alors dans le style?
Oui et non, je suis un peu tout. Puis là on parle que de Morricone et William parce que sinon on va sortir du sujet, mais en vrai il y en a plein d'autres que j'aime à côté, donc
ouais,
il y a plein d'inspiration.
Bon, très bien. Comment pourquoi Morricone contre Williams?
Comment, pourquoi? Il y a une entremetteuse déjà dans l'histoire, faut pas l'oublier.
Oui,
qui nous a mis en relation et qui a poussé un peu pour que ça se fasse, que ça date depuis, ça fait quoi, 8 mois, 9 mois qu'on doit faire
ça? Ouais, il y a eu le confinement, le Covid, le machin, le truc au milieu.
Ouais, il y a eu 2-3 trucs cette année.
Ouais. Et donc merci à l'entremetteuse.
Oui, déjà, voilà, qui se reconnaîtra. qui elle est très très fan de Morricone en plus.
Ouais.
Et voilà comment, et voilà que moi je te connaissais déjà d'avant, mais je dis ouais, faisons-le, c'est intéressant.
Ouais, c'est souvent comme ça, les idées de podcast ou les idées de sujets pour cette émission, genre
Ouais, ouais, tiens, ça, vrai, ça a l'air marrant. Ou alors, ouais, c'est con, faisons-le. C'est aussi souvent ça.
Celui-là, en plus, c'est assez logique, quelque part, quoi.
Est-ce que c'est pas les deux plus grands compositeurs de musique de film de l'histoire?
Bah, si. Si, clairement. Enfin, si, je crois. Oui, oui, il y en a d'autres. Il y en a surtout un autre, mais j'ai pas envie de le citer du tout, lui. Non, non, eux, c'est les plus grands.
Ouais. Hmm. Bon, après, il y en a plein d'autres, des grands compositeurs, évidemment.
Vraiment. Mais des compositeurs qui ont marqué leur époque comme eux, c'est quand même assez, assez rare, quoi.
Ouais.
Bon.
Peut-être que dans quelques années, on fera, je sais pas, Hans Zimmer contre Giorgio Moroder.
Voilà, il l'a cité. Il l'a fait. On parle de compositeur, monsieur. Pas de sound designer. J'en ai rien à voir. Non, mais on peut parler de Basil Poledouris, on peut parler de James Newton Howard, qui est quand même assez énorme aussi dans le domaine. Et il y a Danny Elfman, enfin voilà, il y a plein de grands noms.
Oui,
mais
c'est vrai.
Williams et Morricone, ça, je crois que même ceux qui ne sont pas fans ou qui font pas plus attention à la musique de film que ça, je crois que n'importe qui les connaît ou a au moins entendu une œuvre d'eux.
C'est très juste, c'est exactement ce que je me disais en préparant l'émission, c'est-à-dire en allant 30 secondes sur Wikipédia. Je me disais, il y a entre, enfin, soit quelqu'un a vu un film, si on prend quelqu'un au hasard, soit il ou elle a vu un film, soit il ou elle connaît une chanson, une musique, enfin, ouais. Tu peux pas y avoir échappé, quoi.
Ça, ou un riff, elle est... Tu parles d'un duel, tu vas. Je pense que beaucoup de gens vont avoir un bout d'une musique de Morricone, de western en tête, quoi. Ou Williams, combien de gens vont chantonner la petite mélodie du thème de Dark Vador,
oui.
Sans même savoir forcément d'où ça vient, quoi.
Ouais, complètement, complètement. Deux icônes, on peut le dire.
C'est ça.
Alors, tiens, est-ce que tu te sentirais de rappeler qui est qui
Eh bien, rapidement, Morricone, je donne date et tout, hein, quelques trucs.
Vas-y.
Alors, il est né en 28 du siècle dernier, c'est dire si on parle quand même de mastodonte, et il est décédé dans cette grosse année de merde qui est 2020, entre deux confinements, lui.
Oui.
Il a composé, moi je suis sur Wikipédia, c'est une source impeccable, composé plus de 500 musiques pour le cinéma et la télévision, donc très 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 productif.
Ouais.
Tu l'as dit, on le connaît pour Le Bon, La Brute et le Truand, pour Il était une fois dans l'Ouest. Ça, c'est pour tout le pan de sa carrière avec Sergio Leone et les westerns, quand même sûrement la carrière qu'on lui connaît le plus. Il a aussi fait Le Professionnel, qui est un film que j'ai essayé de voir, je ne suis pas allé au bout, mais le thème est cool.
Aussi connu sous le nom de Royal Canin.
C'est ça. Et du coup, je pense à Alain Chabat qui s'est pété la cheville sur cette même musique incroyable.
C'est vrai.
Et puis voilà, il a fait Mission aussi, ou Mission, ou The Mission, ça dépend, parce que selon là où il est sorti, il n'a pas le même nom, ce film, mais avec un très, très, très beau score encore. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Récompensé par un Oscar d'honneur en 2007 et un Oscar seulement dans sa carrière, ce qui paraît pas énorme. Il l'a remporté en plus pour le film Les 8 salopards de Tarantino, ce qui est pas le film le plus... Je l'ai pas vu, cela dit, mais j'ai pas l'impression que dans toute la carrière de Morricone, ça soit le plus marquant. J'ai pas vu le thème passer en boucle sur Internet, ce genre de choses. Donc.
Non, mais bon, en même temps, il en avait déjà tellement derrière lui que...
Ouais, je pense qu'il fallait lui en mettre. C'est un peu comme DiCaprio. Il fallait lui remettre un Oscar à un moment donné. C'était logique. Et puis, à 87 ans, il était temps de lui en donner un. C'était il y a 4 ans.
Oui.
John Williams, lui, est né en 32, donc 4 ans après petit Morricone. Il n'est pas mort, il ne mourra jamais, c'est impossible. On lui doit...
Où il deviendra un fantôme de force, peut-être.
Ouais. Ah oui, non, mais il agitera la baguette même en fantôme. Pas de problème. Tel Harry Potter. Parce qu'il a fait la musique d'Harry Potter. Voilà, John Williams, vous essayez de vous souvenir d'aller 10 grands films hollywoodiens et puis il va en avoir signé 8, quoi. Donc, grosso modo, vous tombez dedans. Que ce soit Star Wars, Les Dents de la Mer, E.T., Jurassic Park, Superman, Alice de Schindler et compagnie, Indiana Jones évidemment. Il a aussi fait un magnifique thème pour les Jeux Olympiques, c'était en 84 je crois, et il a fait aussi la cérémonie d'investiture de Barack Obama, ce qui est pas rien du tout. C'est quand même une consécration. Puis derrière il a aussi toute une carrière de compositeur classique avec des partitions qui ne sont pas pour le cinéma pour le coup. Et lui il a eu 5 fois l'Oscar de la meilleure musique de film. Mais en même temps il joue à domicile, c'est un peu plus facile.
Et oui, tout à fait. Bah écoute, merci David, là je pense qu'on voit bien à peu près qui est qui. Je fais un micro disclaimer, mais vu les deux mastodontes auxquels on s'attaque aujourd'hui, on ne prétend pas avoir tout écouté, tout vu. Je pense que il y a pas grand monde qui pourrait se targuer d'avoir vu tous les films dans la musique qui a été composée par John Williams. C'est encore plus pour Morricone parce qu'il y a quand même 500, vraiment, hein. c'est très 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 varié.
Énorme.
Et on n'a pas tout écouté et on ne sait pas tout. Donc et on n'essaiera pas de tout couvrir parce que sinon il faudra un podcast de 8 heures, je pense, et encore.
Ouais.
Donc ne nous en veuillez pas si jamais on commet des oublis, si on fait des raccourcis, etc.
Et si on dit des bêtises aussi, parce qu'on est fatigué.
Parce qu'on en a déjà dit, en plus, de toute façon.
C'est sûr.
Bon, bah écoute, on va se lancer dans le vif du sujet. Allez, premier round.
Les plus aventureux peuvent bien sûr opter pour notre croisière de la jungle ou pour une observation rapprochée.
Aucune de ces attractions n'est encore prête, bien sûr, mais le parc ouvrira avec le circuit de base que vous allez faire. D'autres itinéraires viendront s'y ajouter 6 à 12 mois après, de conception absolument spectaculaire. J'ai dépensé sans compter.
Alors, la première question, c'est, on pourrait la traduire par qui est le plus populaire finalement, qui a eu le plus de succès. On l'a dit, hein, ces deux-là sont très très connus, très populaires. Mais on va quand même essayer de les départager sur ce critère-là. Alors, moi, j'ai préparé quelques éléments là-dessus, puis tu vas me dire si tu es d'accord ou pas.
Ça marche.
Déjà, si on regarde les films qu'ils ont scorés, j'ai pas trouvé. En fait, je suis même pas allé chercher le box-office. Mais malheureusement pour Ennio, il peut pas test. C'est-à-dire que, alors certes, il a eu des grands succès. Hein, il a fait la musique de grands succès comme principalement les Sergio Leone, qui sont vraiment ancrés profondément dans l'inconscient collectif. Il a eu quelques beaux succès aussi. Mais tu peux pas test le mec qui a fait la musique de Star Wars, Indiana Jones et tous les Spielberg. Ouais. Et
au niveau des entrées, des ventes et tout, ça, c'est sûr que. Si on parle purement chiffres, il n'y a pas photo.
Non, il n'y a pas photo.
Aussi parce que les Sergio Leone sont un peu plus anciens. Oui et non, pas de beaucoup. Mais pas forcément. Ils ne sont pas aussi grand public non plus. Quoi. Donc, un film de 4 heures, c'est compliqué, par exemple, de se l'enchaîner comme ça, vite fait.
Alors, ça, c'est un point intéressant. C'est que au jeu des comparaisons, on oppose deux univers qui sont quand même assez différents au final. C'est-à-dire que d'un côté, John Williams, c'est quand même le compositeur de Hollywood.
Des blockbusters,
Des blockbusters,
Spielbergien, en tout cas.
Spielbergien, oui, tu l'as dit tout à l'heure, il a scoré quasiment tous les films de Spielberg depuis Jaws, en fait, non?
C'est ouais, ça, hein, c'est ça.
Donc en gros, 90% des Spielberg. En fait.
C'est sûrement un des couples les plus productifs du cinéma tout court, en fait, Spielberg et Williams.
Ouais. Et donc bon, voilà. Et puis en plus, c'est le blockbuster, j'ai envie de dire, dans ce qu'il a de plus noble, hein, c'est-à-dire qui va s'adresser à un large public, qui va être capable de transcender les âges.
Oui, c'est pas le côté péjoratif du blockbuster. Ouais. Ouais.
Non, non. Donc, de E.T. à Harry Potter, en passant par Indiana Jones, c'est assez large. Là où Morricone, lui, c'est quelqu'un qui s'est... Alors déjà, c'est un Européen, c'est un Italien, et c'est un Européen. Il s'est occupé de beaucoup, beaucoup de films, quand même énormément de films européens, même s'il a fait un peu de... Il a fait quelques films américains, mais pas tant que ça, au final. Je pense que son film américain, ou en tout cas apparenté américain le plus connu, c'est de sûrement être The Mission. Enfin, il y a t'as mentionné Hateful Eight. Il y a aussi, alors parmi ces films américains notables, il y a The Thing de John Carpenter.
Ouais, c'est fou. Parce que
avec un score très...
J'étais complètement passé à côté du fait que c'était lui pour cette BO.
Mais je crois
qui est,
que...
Qui n'est pas Morricone dans l'âme, quoi. Mais...
Non, 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 qui est plus carpenterienne dans l'âme. En fait, c'est drôle parce que c'est une des rares BO que Carpenter n'a pas composé lui-même.
Ouais.
Et ça ressemble pas trop au style de Morricone. Et je crois que la jeunesse de la musique a été assez compliquée. Ils avaient du mal à se comprendre dans ce qu'ils voulaient, mais ils y sont arrivés. Mais ça a été compliqué, je sais que ça a
ouais,
été.
Ouais, je veux bien croire, parce qu'il faut aller contre son style. Et puis de l'autre côté, il faut qu'en tant que réalisateur, on lâche un peu le truc.
Ouais.
Ça ne doit pas être évident.
Ouais, ouais, ouais. Et bon, le rendu est, je trouve, extraordinaire, à titre personnel.
Ouais.
Enfin voilà, et puis Morricone, c'est aussi un gars qui a fait la musique de plein de films complètement obscurs. C'est-à-dire, il était dans les années 60-70, il a fait moult musique de western spaghetti, voire même un peu de films limite nanar, bis. Enfin, il a fait la musique de films de réalisateurs comme Corbucci, Tinto Brass, Lucio Fulci ou Argento pour parler de. Déjà de quelque chose d'un peu plus un peu plus mainstream. Mmh. Enfin voilà, donc forcément les western spaghetti contre les blockbusters américains. Bon.
Oui.
En termes de popularité,
c'est pas la même cible, clairement pas.
Après, on peut regarder un autre critère, c'est les disques vendus. Et là, c'est plus compliqué.
Ah ouais.
Alors, évidemment, c'est impossible de trouver de savoir combien chacun a vendu de disques, c'est juste impossible. Mais néanmoins, il est possible que Morricone ait vendu plus de disques que John Williams. Je dis bien possible. Je ne peux pas l'affirmer. On dit que Morricone a vendu 70 millions de disques dans sa carrière. Ce qui est
déjà, oui, très bien.
John Williams, j'ai pas réussi à trouver de chiffres. Maintenant, on sait qu'il a plusieurs disques de platine certifiés. Donc un platine, c'est 1 million. Il a plusieurs platines certifiées pour principalement les BO de Star Wars, en fait. Mais peut-être une dizaine. Bon, c'est bien aussi. Mais donc voilà, sur cette question de vraiment la vente des disques eux-mêmes, c'est plus difficile à dire. D'ailleurs, alors c'est un indice qui vaut ce qu'il vaut, mais dans les brocantes, on ouais. trouve beaucoup de Morricone. On trouve pas forcément facilement en vinyle. J'ai rarement vu des BO de Star Wars ou de choses comme ça. Je pense que d'un point de vue purement musical, il est possible que Morricone ait eu une portée plus importante. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, mais... c'est possible. Et puis, si on revient, on est bien obligé de revenir malgré tout sur la carrière western. Il a marqué au fer rouge. Aujourd'hui, on n'imagine pas une autre. D'ailleurs, quand un western sort aujourd'hui, sa musique est clairement inspirée de Morricone, quoi. Faut pas faire l'impasse.
Oui.
Ça. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu les films, mais connaissent le thème, connaissent la musique, connaissent directement ça. Donc, je suis pas étonné qu'ils l'achètent rien que pour l'écouter, parce qu'ils peuvent, encore une fois, les films sont assez, sont très intéressants, mais parfois longs, quoi. Donc, c'est parfois plus facile de lancer un vinyle ou un CD ou un MP3.
Alors
qu'un Star Wars, c'est 2 heures. C'est vite fait.
Oui. Bah oui, oui. Non, mais c'est de... pour le coup, c'est du pur entertainment. Et une fois de plus, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, pas du tout.
Ouais.
Clairement, les films de Sergio Leone, il faut. Alors surtout que c'est des films avec une mise en scène très lente, avec des plans qui peuvent être très longs. Enfin, la scène du train la première scène dans Était une fois dans l'Ouest, elle dure, je sais pas, 20 minutes, non?
Ça prend le temps, ouais. Ouais. C'est une autre façon de raconter. Et aujourd'hui, on est plus habitué à une espèce d'hollywoodisation où ça va vite.
Ouais, complètement. Enfin bref, Donc tout ça pour dire, allez, j'ai envie de dire dans le deuxième sous-point de, des disques vendus, on va dire que Morricone en a vendu plus que Williams. C'est arbitraire. Mais on a un troisième sous-point, et je pense que malheureusement notre Italien va devoir céder le point de qui a le plus de succès, si tu es d'accord. C'est les récompenses.
Oui.
Qui a été le plus récompensé. Et là, malheureusement, donc comme tu l'as dit en introduction, Morricone a eu un seul Oscar en compétition, il en a eu deux en tout avec un Oscar d'honneur. Williams en a eu 4. Non, qu'est-ce que je raconte ? 5. Non, 4, il en a eu 4. Il en a eu 4. Non, 5. Il en a eu 5. 4 pour meilleure musique et 1 pour un truc genre qui a un rapport avec la musique mais qui peut être totalement la musique. Je sais plus. Meilleure adaptation d'une musique originale. 4 Golden Globes. 7 BAFTA. Morricone a eu 3 Golden Globes et 6 BAFTA quand même. Il est pas loin. Il est pas loin.
C'est clair.
Mais voilà, il est quand même juste en dessous. Alors, il a eu un César. John Williams n'a pas eu de César.
Ah. Non. Mais encore une fois, il jouait moins à domicile encore. C'est marrant, hein, comme d'un continent à un autre, ça.
Ouais.
Il y en a un qui était plus présent en Europe, quoi.
Peut-être que pour nous, Français, Morricone a une aura plus forte qu'il ne peut l'avoir dans d'autres pays.
Ouais. Peut-être.
Du fait qu'il s'est rendu connu aussi pour pas mal de films français et italiens que nous on connaît, que peut-être
en Amérique peut-être pas. Ouais.
À part des fans de ciné hardcore comme Tarantino.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc sur le point des récompenses, c'est John Williams qui gagne. Alors, et là en plus, il a gagné 23 Grammy quoi, pour enfoncer le clou. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on donne le point du succès à John Williams ou
Ouais, je suis déjà, je suis pas très objectif. J'ai toujours été plus Williams de toute façon. Donc, mais là, voilà. Donc, il va falloir que tu m'aides à défendre Morricone, même si j'adore Morricone. J'adore. Mais je suis un fanboy de Williams, clairement. À penser que sans lui, il y aurait pas Hollywood presque. Donc,
Ok. Écoute. Il faut bien choisir, c'est renoncer. Hein. Donc on va donner le premier point à John Williams alors.
Et en même temps, je me permets juste une anecdote. Je
mais
fais
parfois
du covoiturage comme tous les gens bien. Comme ça, je me jette des fleurs en passage. Et j'avais parlé musique de film dans un covoiturage et il y a quand même assez régulièrement les gens me disent. Quand on leur dit j'écoute John Williams machin, assez régulièrement les gens vont te dire moi celui que j'aurais bien aimé voir c'est quand même Morricone
en concert.
Ouais, j'ai eu la réflexion peut-être 3-4 fois, tu vois, depuis une dizaine d'années, c'est pas grand chose, mais systématiquement c'était lui.
Alors c'est complètement subjectif et impossible à quantifier, mais j'ai l'impression que Morricone a laissé une trace plus importante dans l'esprit des peut-être des mélomanes et dans l'esprit musical des gens.
Peut-être. Il y a un attachement différent. Il y a quelque chose. C'est plus intime aussi.
Ouais. Je sais que par exemple Metallica met Ecstasy of Gold en ouverture de tous ses concerts. Mm-hmm. Il y a pas mal de musiciens qui se revendiquent comme très influencés par son travail. Je pense aussi qu'il a peut-être laissé une trace plus forte une fois de plus dans le travail musical de beaucoup de musiciens. Mmh. Je pense aussi à beaucoup de compositeurs japonais. Notamment il y a beaucoup de musique d'animé des années 70 qui sont vraiment directement inspiré du travail de Morricone. Si on écoute la musique de Galaxy Express 999 ou de même Goldorak, hein. Au-delà de ce qu'on connaît le plus des génériques, les thèmes sont très morriconiens. Mm-hmm. Donc, dans l'héritage, j'ai envie de dire, si on appelait ça l'héritage. Est-ce que à cause de Blablacar, on met match nul ou...
Tu vois, je sais pas, j'y pensais là, mais j'ai l'impression que les gens ont retenu ce travail en même temps. Ouais, on va jamais en finir si je continue comme ça. Mais je pense qu'on lui a attribué un style à Morricone, donc il est très ciblé, quoi. Il est très ciblé dans justement, il était une fois dans l'Ouest, des musiques qui sont grandioses, qui sont avec la guitare électrique aussi, qui est plus abordable qu'un orchestre symphonique. Ouais. Il y a plusieurs choses, je pense, qui jouent là-dedans, dans cet attachement particulier.
Bon, alors, écoute, moi j'ai envie de dire match nul sur le premier point.
Ça marche.
Allez. c'est toi qui es revenu du Diable Vert avec ton...
Il faut bien que je l'aide un peu.
avec le covoiturage.
Et essayez la musique de film en covoit, ça marche très bien.
Ouais,
ça,
bien vu.
Ça lance de bonnes discussions.
Alors justement, deuxième point, qui a scoré, comme on dit, les meilleurs films, qui a composé la musique des films les plus réussis. Alors là, on est en full subjectivité, parce que un, on n'a pas tout vu, deux, difficile de faire plus subjectif. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ah ben, moi, je suis fanboy, donc ça va être compliqué. Moi, j'ai pas trop grandi avec les compositions de Morricone. J'avais des parents qui trouvaient que le western n'était pas terrible, donc déjà, c'était compliqué d'en voir quand j'étais gosse. Et la grosse période de rattrapage que j'ai fait presque intossément là, dernièrement, avant le podcast, m'en a presque dégoûté, quoi. je vous dis que c'est bien. Mais je renie pas du tout la qualité de ces films que j'ai pu voir, à part Le Professionnel, où j'ai tenu 30 minutes. J'en pouvais plus. Ouais. Parce qu'en plus, je l'écoutais pour la musique, et pour le coup, c'est toujours le même thème en boucle. Quoi qu'il se passe, limite, Belmondo se baisse et hop, on met le thème, quoi. Donc, ça va, au bout d'un moment, ça m'a bien plu. Je vais pas aller au bout. Par contre, pour Mon Nom est Personne, etc. Enfin, il y a un très bon travail, c'est de très bons films. Et là, c'est subjectif. Et moi, j'ai vu plus de films de Spielberg que j'ai pu voir de films Maman, j'ai raté l'avion, qui est aussi une composition de Williams, magnifique. Donc j'ai plus vu et j'ai plus entendu du coup le travail de Williams.
Oui.
Et des films ont marqué.
Mais les films eux-mêmes, là, finalement, c'est pas qu'on oublie la musique, parce que la musique fait partie de la qualité du film.
Normalement, on doit aller avec, même. Ouais.
Mais bon, on en reparlera un peu plus dans le point d'après. Si on regarde, le classement IMDb, qui veut pas forcément dire grand-chose, puisque le meilleur film de tous les temps d'après IMDb, c'est toujours Les Évadés. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Enfin, bref. Écoute, je crois que le premier des deux à être présent dans le classement, c'est Williams, via la liste de Schindler.
Ouais.
Et Le Bon, la Brute et le Truand est 9e. Donc c'est pas mal.
Ouais.
Et ensuite, on retrouve Williams à nouveau à la 15e place pour L'Empire contre-attaque.
Ah ouais.
Et on retrouve Morricone pour... on le retrouve pas. Voilà. C'est ça le problème. C'est qu'après, on a encore du Spielberg.
C'est encore évidemment. Le panel de public était plus large, quoi.
Après, on retrouve, il était une fois dans l'Ouest en 48e position. C'est marrant parce que je trouve que il était une fois dans l'Ouest et Le Bon, la Brute et le Truand sont vraiment des films extraordinaires.
Ouais.
Mais je trouve qu'il était une fois en Amérique et encore un cran au-dessus.
Ah ouais.
Et à titre personnel. parce qu'ils racontent sans doute des choses plus profondes sur leur personnage. En fait, évidemment, en termes de quantité, comment dire, Williams a travaillé avec tellement de grands films, de, oui. notamment de Spielberg, hein, mais pas que.
Mais George Lucas aussi, et Columbus aussi, donc rien que ça.
Voilà. Ouais, non, les films de Sergio Leone, je les trouve particulièrement incroyables. Ouais. Et alors, surtout, c'est des films qui résistent quand même plutôt bien au passage du temps, même si,
ouais.
comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est une façon de raconter des histoires qui n'est plus tout à fait.
On n'a plus cette habitude, mais elle est, en vrai, quand on se donne la peine et qu'on faut se faire un peu violence, même pour y rester, mais c'est tellement. Jouissif au final que y a rien à regretter.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, donc toi, tu trouves que John Williams a fait des meilleurs films que, enfin, a scoré des meilleurs films que Morricone.
Bah, c'est la nostalgie qui parle aussi. Je suis un enfant d'E.T. moi, donc enfin, je lui ressemble pas, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment
pas biologiquement.
Je suis fan de dinosaures depuis que j'ai vu Jurassic Park. Quoi. Voilà, je suis dans cette clairement dans cette veine-là. Et je ne veux pas que tous les films de Spielberg sont excellents. La liste de Schindler est quand même vachement sympa. Et, ouais. et Jurassic Park est beaucoup plus intéressant dans ses petites lignes que dans son histoire principale, en plus. Il y a des choses très intéressantes des deux côtés. Là, je ne saurais vraiment pas me décider, d'autant que, pour le coup, comme je n'ai pas beaucoup, encore une fois, pas beaucoup vu... les films où Morricone sur lesquels il a travaillé, la nostalgie peut pas jouer. Donc, je peux pas les juger de la même façon. Mais pour les avoir vus un peu là sur le tard, redécouverts là sur le tard, ils sont, d'un point de vue cinéphile, ils sont impressionnants.
Alors,
c'est presque un film d'auteur à ce niveau-là.
Totalement. Complètement. Une fois de plus, on revient un peu sur cette opposition un peu entre un mec qui a fait vraiment du blockbuster de grande qualité, ouais. et de l'autre quelqu'un qui est plus dans le cinéma indépendant européen, ouais. Plus varié. Alors j'ai quand même une carte à sortir là une carte qui peut avoir son petit effet. C'est la carte de Palma. Ah. Puisque Morricone a fait la musique de 3 films de Brian De Palma, alors 2 qui sont pas très brillants, notamment Mission to Mars, mais par contre il a fait Les Incorruptibles.
Oui.
Qui est un film que j'ai en grande estime. Il a fait quelques Polanski aussi, pas trop parlé, mais Frantic notamment, qui est plutôt un chouette film. Il a fait du Friedkin, mais c'était pas la meilleure période, hein, évidemment. Le grand score de Friedkin, c'est L'Exorciste, et c'était qui déjà? C'est Michael Field, non? Je sais plus. Non, je sais plus. Bref,
emblématique aussi, hein, pour le coup.
Ouais. Bon, écoute, est-ce que tu penses que je vais te poser une question terrible et tu vas être obligé de répondre par oui ou par non.
Chercher un dé. Attends.
Est-ce que tu penses que Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, est un meilleur film que Le Bon, la Brute et le Truand?
Ouais, mais là, t'as vu, c'est dégueulasse ce que tu fais. C'est dégueulasse. C'est dégueu. Je pense que... Non, évidemment. Évidemment que non. En plus, c'est le 4. Enfin, il est bien le 4, mais c'est Lucas, quoi. C'est pas beau.
Bon, alors, attends, je te pose une autre question, alors. Je vais être plus fair play. Est-ce que tu penses que Indiana Jones et Les Aventuriers de l'Âge Perdu est un meilleur film que Les Incorruptibles?
c'est pas le même public. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là, c'est compliqué tes questions. J'ai l'impression d'être. J'ai l'impression que tu me demandes si je préfère avoir une tête de canard ou toi un pied un peu. C'est pas possible. On va encore. On va. Et tu sais que comme je pourrais pas me décider, on va encore mettre un point ex aequo. Qu'à la fin, on va dire bon, bah, c'est nul. Ils sont nuls.
Est-ce que tu penses que La Liste de Schindler est un meilleur film que The Thing?
Bah oui, pour le coup. Mais non, en même temps. Non, tu vois, dès que tu revois le film, tu vas, ok, c'est pas la même optique. Et les deux se défendent dans leur style. Moi, j'aurais aimé qu'on ait le choix sur, bah voilà, c'est le même film. Ils ont tous les deux travaillé dessus. Qui a fait le meilleur taf? Voilà, là, ok. Là, je serais super curieux, en vrai, de voir la différence de vision entre les deux mastodontes sur un même support.
Ah, ça, ce serait... des films. Ça serait extraordinaire, en fait, si je pouvais demander un vœu.
Ouais.
Si j'avais trois vœux, j'en garderais peut-être un pour ça, quoi.
C'est intéressant, hein, à savoir, ouais, ça.
Ça serait fou. On va en parler un peu après. Bon, écoute...
Ils ont tous les deux servi le cinéma, quoi. Puis tellement ouais, bien, en plus.
Et chacun à leur manière et pas le même type de cinéma.
Et sur les bons films.
Après, il y a une chose qu'on peut dire, et là on va être d'accord, c'est que John Williams a fait la musique de plus de bons films que Morricone.
Oui, du fait de sa bonne relation avec Spielberg, je pense, oui.
Ah oui, non mais bon, après, hein, ça... Bon, enfin,
mais oui.
Je vais ajouter un petit probablement, parce que, évidemment, quand je vois tous les films dont Morricone s'est occupé, il y en a beaucoup que j'ai pas vus, et beaucoup qui sont un peu obscurs, et ça se trouve, là-dedans, il y a des perles et des chefs-d'œuvre, je ne sais pas. Mais bon, déjà Spielberg, quoi. Déjà la film au Spielberg.
Ça, rien que ça.
C'est déjà beaucoup, donc moi je te propose qu'on donne quand même ce point-là
ça marche.
À John Williams, même si notre cœur a saigné.
Ah ouais. Oui.
Alors, tu disais il y a quelques secondes, tu disais on aimerait voir ce que ça aurait donné si tous les deux avaient fait la musique d'un même film.
Ah,
finalement,
ouais.
Lequel des deux aurait le plus apporté au film. C'est un peu l'objet du troisième round. La question, c'est qui a le plus permis de transcender les films pour lesquels il a composé la musique, c'est-à-dire... qui a le plus apporté à ces films, en fait. Et là, ça revient à poser une question encore un peu improbable. Est-ce que Star Wars serait Star Wars sans la musique de John Williams? Est-ce que Superman serait Superman sans John Williams? Est-ce que Le Bon, la Brute et le Truand serait Le Bon, la Brute et le Truand sans Morricone?
Superman, je pense que oui. Superman, je trouve pas que ça soit son thème. Je trouve qu'il va très bien avec le personnage, mais qu'il est assez classique quelque part. Par contre, Star Wars, quand en 77 les gens sont allés voir ce film obscur et que ça commence par un thème qui est impérial et un vaisseau spatial, je pense que là t'es cloué à ton siège et que le vaisseau était déjà énorme, mais que la musique en plus à dupliquer l'effet. Je pense vraiment que sans Williams, il n'y aurait pas eu ce même effet Star Wars. Ça, j'en suis persuadé, quoi. D'ailleurs, preuve en est que quand on veut parler des films, les gens chantonnent la musique avant même d'avoir vu les films ou de connaître l'histoire. Elle est ancrée. Et puis, il n'y en a pas qu'une. C'est une succession de thèmes. Et ils sont tous connus. Ce qui est quand même assez énorme. J'ai pas vu un effet pareil jusqu'à Pirates des Caraïbes, tu vois, dans l'histoire du cinéma. Avec une succession de thèmes, tous très bons, ou presque tous très bons. Au niveau Star Wars, c'était... en plus, pour une production où George Lucas ne voulait pas de musique, ou de la musique classique, et que c'est Monsieur Spielberg qui a dit « Non, mais je connais un mec qui est pas mal, tu vois, il se démerde. » Voilà, quoi. Ça en impose.
Oui.
Mais de la même manière que le western, les films de western sur lesquels a travaillé Ennio Morricone sont indissociables de cette musique, de ce type de musique, et curieusement du mélange qu'il a pu faire avec des batteries, avec un orchestre symphonique, avec de la guitare électrique, avec des cris stridents, des bruits de klaxon, et qu'aujourd'hui... tu vois, cette semaine, j'écoutais la... Vu que je pensais à Morricone, je me dis, tiens, ça m'a rappelé un truc, ça m'a rappelé un morceau qu'il y a dans les derniers Rayman ou dans les derniers jeux Rayman, qui est tellement western et qui, du coup, est évidemment Morricone. Évidemment, direct, quoi. Ça peut pas être autre chose, la musique western. Oui, oui. Aujourd'hui, je sais pas ce que c'était avant. C'est impossible.
Oui, c'est vrai.
Il est arrivé, il a fait, c'est ça. Tout le monde a dit, ouais. C'est ça, et je crois que c'est pas demain la veille qu'on aura quelqu'un d'autre qui révolutionnera ce genre.
C'est vrai. Alors après, c'est de la même manière que le western spaghetti a révolutionné le western. Ça fait partie de la révolution, ouais.
C'est ça, et c'est ça paraît indéboulonnable.
Et en même temps, Star Wars a révolutionné le blockbuster.
Star Wars, oui. Mais Dead les Dents de la Mer, c'était déjà le premier blockbuster, les Dents de la Mer. Mais après, ça c'est. Ouais, ça s'est carrément enchaîné. Et puis, mais tu vois, aujourd'hui, quand quelqu'un d'autre que Williams travaille sur Star Wars, il vaut mieux faire autre chose. C'est pareil. Il faut pas essayer de faire du Williams. Ça rend pas très bien. J'adore Rogue One, mais je trouve que la musique, en essayant de faire trop Williams, a perdu.
Ah oui, c'était un grand truc très bizarre. Je me souviens, effectivement, que quand j'ai découvert le film, j'étais très étonné. En plus... Michael Giacchino,
mais il est bon. Mais faut
un bon compositeur.
Faut qu'on arrête de lui demander d'imiter Williams. Mais il est très fan et ça se sent dans ses compositions. Mais quand on lui fout la paix, il est très bon en fait. Et tout ce qu'il a fait pour Pixar, c'est vraiment excellent. Mais dès qu'il travaille là sur Rogue One ou sur Jurassic World, on sent que c'est pas le même niveau. Donc ça colle pas. Même si c'est bon, hein. Après, j'aurais adoré voir ce que Desplat avait préparé et que du coup, comme il a quitté le navire au dernier moment, parce qu'il en avait marre qu'on lui dise « il faut que tu retouches tes partitions toutes les deux jours. » Et Alexandre Desplat, je pense que ça aurait pu être sympa. Parce que lui, pour le coup, d'ailleurs, on l'a vu sur Harry Potter, c'est un bon héritier de Williams, mais il s'en éloigne. Ça marche mieux quand tu prends une série comme The Mandalorian qui est vraiment bonne. La musique fait des petites références à Williams mais s'en détache, et je pense que là ça marche.
Oui. La musique est très très bonne d'ailleurs.
Ouais, ça colle quand même avec l'univers. Alors que tu ferais une série western aujourd'hui, moi j'attends de voir. Pour l'instant, j'ai vu aucun compositeur qui s'est dit tiens, je vais faire autre chose que du Morricone style. Donc oui, non, je pense pas que ces films auraient eu le même succès s'il n'y avait pas eu cette musique. Parce qu'aujourd'hui, si on se souvient de ces films, c'est presque plus pour la musique que pour l'histoire en elle-même.
Après, c'est plus ou moins vrai selon les films. C'est-à-dire que... tu vois, typiquement, la liste de Schindler, je me souvenais plus du thème, en fait.
Ah.
Je l'ai réécouté et
t'as les larmes.
Je t'ai perdu là.
ce thème est magnifique. Magnifique.
Mais
et je peux te jurer que dans une salle, il fait pleurer tout le monde. Systématique.
En même temps, le film est.
Oui, même c'est pas la joie. C'est genre. Faut mettre du Patrick Sébastien là-dessus. Mais. Williams avait raconté une anecdote sur ça, c'est qu'à la première projection du film avec Spielberg, il lui avait dit « tu vas devoir trouver un meilleur compositeur ». Et Spielberg lui avait dit, bah oui, mais tu vois bien qu'ils sont tous morts.
C'est marrant, ça.
Et finalement, il s'est bien débrouillé.
Pour le coup, peut-être que Morricone aurait pu faire une partition assez intéressante.
J'aurais été très curieux de voir Morricone sur ce genre de film. Vraiment.
Parce que les musiques de Morricone sont souvent assez... peuvent être assez tristes et mélancoliques.
Oui.
Et là, ça aurait pu fonctionner, quoi.
D'autant que Morricone rejette les morceaux là, dont on parle depuis tout à l'heure. Hein. Il les aime bien, mais on le résume trop à ça. Donc, sur sa fin de carrière, il avait tendance à dire « Je n'ai pas fait que ça » et arrêtez de m'en parler.
Oui, c'est vrai. J'ai découvert en préparant l'émission que c'était lui qui avait écrit la chanson « Here's to You » de John Baez.
Ah ouais?
Pour le film Sacco et Vanzetti, je savais même pas. Alors que la chanson est quand même ultra connue, mais je ne savais pas que c'était lui qui avait fait ça.
Touche à tout.
Ouais. Touche à tout, complètement. Bah là, ouais, c'est vraiment ça. Hein.
Et il osait les mélanges, quoi. Il osait tester des trucs.
Oui, tu m'as dit que tu avais été assez choqué par une partition de klaxon dans... c'était pour Moment et Personne,
Oui, où il reprend chevaucher des pianistes sur un de ses thèmes, et au klaxon. Et les deux, trois premières secondes, je fais « Attends, c'est quoi ce bruit ?» T'arrives même pas à comprendre ce que t'es en train d'entendre. En fait. Après, je dis « Ok, c'est un klaxon. » Et puis, ouais, c'est étonnant, tu tends l'oreille, parce que ça te happe. Et tu dis, mais en fait, ça rend vachement bien. C'est pile poil, en plus, parce que la scène, c'est sérieux, mais ce film n'est pas très sérieux, globalement. Enfin, y a un second degré dans ce film, donc ça colle parfaitement. Fallait oser.
Bon, ça nous dit toujours pas qui a le plus transcendé ce film. On parle.
Je te laisse dans ta mère. J'ose rien dire là parce que moi les deux ont tellement fait le même boulot de la même intensité. Je suis incapable encore une fois de les départager là-dessus. Je trouve. Alors si on veut les départager, je trouve que Williams a plus souvent transcendé les films que Morricone. Morricone, justement, il y a quand même 5-6 grands thèmes, mais que la plupart des autres qu'il a fait, on les connaît pas. Ou ils vont être plus bateaux. Alors que Williams, bah, dès qu'un film sort, limite Spielberg le prend parce qu'il sait que ça va être un succès grâce à lui.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, on en revient sur la question de la quantité. Hein.
Oui.
C'est que je pense que vraiment Morricone a transcendé plein de choses. Mais Williams, effectivement, est-ce que Jaws aurait eu le succès qu'il a eu sans cette musique? C'est peu probable quand même.
Une musique à laquelle ne croyait pas Spielberg en plus. Williams lui a presque imposé.
Décidément, hein.
Bah ouais.
Toujours obligé de s'imposer, puis à la fin on le remercie.
Deux notes, quoi, ça suffisait.
Eh oui, c'est incroyable.
Ça marche.
Et tu savais que toi et nos auditeurs, nos auditrices, saviez-vous que la musique du JT de TF1 dans les années 90, c'était une adaptation de la musique des Dents de la Mer?
Totalement, oui. Il y a la même ligne mélodique dedans. Ouais. Et c'était fait pour. Hein.
Et c'était fait pour, ouais. C'était fait pour faire peur aux gens.
C'est ça. Ça se rend anxiogène. C'est dans le thème principal de Jaws, c'est pas le thème qu'on connaît tous, c'est juste peu après. C'est le thème aussi qui est réutilisé quand on découvre la ville dans le film. C'est un thème qui est un peu léger finalement, donc c'est même curieux qu'il l'ait pris.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la partie. Là, c'est quand ça remonte un peu là. Bref, E.T. serait pas E.T. sans la musique. Je pense que Rencontre du troisième type, c'est un film qui repose beaucoup sur sa musique aussi. Bon, Harry Potter serait Harry Potter sans la musique.
Tu crois? Écoute bien le thème.
Non, la musique est super. La musique est vraiment super, magnifique.
Si tu la réécoutes, et pareil pour les auditeurs, réécoutez-la, faites bien attention au travail des cordes au début du thème.
Ouais.
Les cordes au début du thème, quand les cordes commencent, c'est une succession de mélodies en fond très très subtiles. Et c'est du Quidditch, quoi. Alors ça vole dans tous les sens. Et c'est l'effet magique qui sort de la baguette, quoi. C'est assez fou.
Non, alors clairement. Non, mais ce que je voulais juste dire, c'est que il y avait déjà une telle attente sur les films à cause des livres.
Ouais.
Que, bon, de toute façon, c'était.
De toute façon, oui.
Mais c'était gagné. Mais la partition est super.
C'est
super.
Super. Ça sent la magie dès les premières notes, quoi. Donc,
non, ça fonctionne hyper bien. Jurassic Park, bon, je pense que là aussi le thème apporte beaucoup, même si avec une musique de Patrick Sébastien, peut-être que ça aurait bien marché aussi, on sait pas.
C'est pas ta préférée, ça.
Elle est bien. Non, j'aime beaucoup le thème de Jurassic Park. Non, ce que je veux dire, c'est que le film a aussi tellement d'arguments. Enfin, c'est le cas de Star Wars aussi, mais
c'est plus subtil, c'est
plus subtil, Star Wars. Ouais.
Il y a une seconde lecture sur justement l'égalité homme-femme et tout, qui est assez intéressante dans ce film. Faut se pencher sur cette question si ça vous intéresse, je le dis pour les auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de petits indices dans le film pour ça. Et la musique que j'adore dans Jurassic Park, c'est quand ils sont à table et qu'ils lui parlent de son spectacle de puces.
Oui.
Et t'as une petite musique là, toute mignonne, mais vraiment des petits tintillements. Je trouve que c'est le morceau qui ressort, quoi.
Ah oui. Non, mais de toute façon, il y a une, Spielberg est un génie de la mise en scène, tout simplement. Et la musique fait partie de la mise en scène. Et il sait parfaitement comment l'utiliser, à quel moment, de quelle façon.
Il en connaît la valeur.
Donc, bon. Bon, allez. Écoute, on va donner le point à John, hein, on est obligé. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais vous n'avez pas vu tel ou tel film où la musique apporte vraiment quelque chose en plus et tout ça. » C'est vrai, c'est possible. Et c'est peut-être vrai, mais bon, comme c'est nous qui faisons le podcast.
Fallait être là.
Mais je me ferai un plaisir de remonter, de transmettre, de retweeter, de partager les avis complémentaires et contradictoires qui arriveront après cet épisode. Avec grand plaisir. Je m'en ferai un devoir et un plaisir. Bon, bah écoute, ça nous fait 2-0 pour John Williams, hein, du coup. Mais qui sait, peut-être que le match n'est pas terminé.
Oui.
Puisqu'on a encore un round, et qui est le meilleur musicien. Donc là, une fois de plus, on y va gaiement dans les questions
impossible.
Normalement. Impossible. Ouais. Toi, tu les as vus tous les deux en concert.
Je suis un de ces rares chanceux à avoir pu voir les deux, ouais.
Ah, c'est une vraie chance. Alors, alors indépendamment de sans influer sur le résultat de ce round-là, lequel des deux concerts tu as préféré? Est-ce qu'il y en a un des deux que tu as préféré déjà?
Non, je les ai aimés tous les deux, pour différentes raisons. Morricone, je découvrais plus. Donc déjà, c'est intéressant de découvrir des trucs.
Ouais.
Je t'en avais parlé... En préparant cette émission, j'ai juste été déçu parce que, comme je le connaissais par ses thèmes les plus connus, avec Tazzy of Gold et ce genre de choses. C'est Tazzy of Gold. Bref,
ouais.
Et que lui, il peut plus trop les jouer parce que ça l'emmerdait. Il les jouait à une vitesse pour s'en débarrasser. Juste pour dire, c'est bon, vous les avez eus. Donc quand tu vas en connaissant principalement ça, tu te dis, bah non, c'est dommage. Et c'est une expérience que je te disais, il faut la faire, il faut regarder sur YouTube ces captations live, et plus elles sont récentes, vous verrez que plus le morceau va vite. Il en peut plus.
Bref, j'ai joué Ecstasy of Gold.
C'est bon, allez, vous l'avez eu, merci. Et il le fait en rappel encore plus vite, sans dire, c'est bon. J'étais malade. Mais il y avait de très très bons morceaux. En plus, c'était, pour le coup, je suis allé le voir en Italie, donc dans le cadre qu'il fallait, en extérieur, dans des anciennes ruines. Enfin, c'était magnifique. C'était son avant-dernier concert, donc il y avait une valeur aussi. Et à ce moment, je savais qu'il n'y avait plus qu'une date le lendemain, puis c'était fini, il arrêtait sa carrière. Ouais, c'était temps d'y aller. J'ai un souvenir d'Italien qui en avait rien à foutre, qui prenait de la bière pendant le concert, qui mangeait du melon et qui limite parlait à côté. Ouais, c'était assez bizarre. Ils ne se rendaient pas compte de la chance qu'ils avaient, en fait, de voir. Donc, ils n'avaient pas le même respect. Et Williams, j'ai eu un rendez-vous loupé à Londres, parce qu'il a fait un malaise deux jours avant. J'ai pu passer une soirée hommage. C'était quand même le monde des souvenirs orchestrales, les grands orchestres du monde.
J'ai cru que t'aimes bien qu'il avait été remplacé par un Zimmer au dernier moment.
Non, mais c'était rigolo parce que les musiciens, en plus, deux jours avant, il faut se dépêcher quoi. Ils ont quand même préparé une bonne soirée, puis ils avaient des anecdotes. Ils avaient fait dédicacer des albums, des choses comme ça quand ils s'enregistraient pour du Star Wars. Il y a des gens qui me connaissaient, ouais. J'étais presque déçu aussi de ne pas jouer pour vous. Et j'ai finalement pu le voir cette année à Vienne. Il faut bouger pour le voir, mais
oui, il faut bouger.
Ça faisait 20 ans qu'il n'était pas venu en Europe, donc on ne se pose pas la question de ses parents. Et là, il a réussi à tenir debout. Donc ça m'a plu. Et les deux concerts m'ont plu parce que, tout dans le premier, je découvrais et j'étais déjà très fatigué à Morricone, ça se sentait. J'ai pas vu, il était assis, mais c'était hyper intéressant techniquement, avec le vocal, et dans le deuxième, j'ai beaucoup aimé aussi parce que c'était moins fidèle. C'est pour ça que je parlais de l'année de Boraté, parce que l'année était dans un hommage, donc le thème était très fidèle, il ne changeait pas dans ce qu'on pouvait connaître. Alors que quand il a piégé lui, il n'avait pas hésité à déstructurer ses morceaux et à les jouer différemment, et même à faire venir une violoniste pour plusieurs morceaux et qui était solo et qui rejouait différemment et tout. C'était très... Ça changeait.
C'est intéressant, ça.
Ouais, et il la mettait en avant, et ça, tout est sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. Le concert de Vienne doit être entièrement sur YouTube. Et c'est vraiment très intéressant. Je dirais que sur le concert, t'avais une bonne moitié qui était réécrite.
Ah, ça doit être chouette, ça. Mmh. Ça doit être vraiment intéressant comme type de concert.
Ouais, c'était super intéressant, en effet, d'avoir une autre vision du thème, dans une autre couleur, quoi.
Mmh.
Et sans que ça l'empêche de jouer le thème de Star Wars hyper classiquement et avec un sourire... énorme, on voit qu'il y prend beaucoup de plaisir, et les musiciens aussi, parce que même après le concert, t'avais encore 2-3 tubas qui s'amusaient à rejouer le thème. Ils s'éclataient.
C'est vrai. Alors ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que pour le coup, la musique de Star Wars, ça doit être aussi la musique qui a été le plus reprise du monde. Ça doit être une des musiques pour lesquelles il y a le plus de covers qui existent.
Sûr. Ah oui, oui. C'est sûrement une des musiques, voire la musique la plus connue au monde, donc.
Tiens, j'en ai une pour toi, là. Attends, est-ce que je l'ai là ? Normalement, j'ai un truc un peu sympa à te faire écouter.
Bah oui, Star Wars Disco.
Voilà. Alors c'est.
J'adorais ça.
C'est Michel Leclerc, cette version-là.
Mm-hmm.
Alors Michel Leclerc, qui est le compositeur de la musique de la soupe aux choux.
Ouais, ça s'entend, hein.
Et ça s'entend.
Mais c'est très bien fait.
Enfin bref.
C'est déjà mieux fait que là-haut dans les étoiles, etc. Cette fille,
ah oui, c'est vrai. C'est oui, c'est
catastrophique.
Ah là là. Alors, dis-moi, qui tu penses est le meilleur musicien ou qui tu penses a écrit les meilleures chansons? Après, je te dirai ce que je pense.
Ben, commence donc par ça. je peux pas aller. Encore une fois, j'ai vraiment du mal à les classer, quoi. Ils ont tellement des styles différents et le même amour pour la musique.
Ouais.
Ouais, c'est sûr que rien que pour le côté où Williams n'hésite pas à déstructurer, à s'amuser un peu. Mais de l'autre côté, c'est contrebalancé par Morricone qui, justement, te dit ces thèmes-là, c'est bon, on les connaît. Je vais plutôt jouer ceux-là et je les préfère.
Alors, je pense que. Je trouve que la musique de Morricone apporte peut-être plus d'émotion, y compris à écouter en dehors du film, des films. Là, une fois de plus, je dis ça à propos des quelques thèmes qu'on connaît beaucoup, alors que ça représente une goutte d'eau sur tout ce qu'il a fait. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que une musique comme le thème de « Était une fois dans l'Ouest », alors je parle pas de l'harmonica, mais vraiment le thème principal avec les chœurs féminins. Là.
Ouais, j'adorais les chœurs.
Ouais. Mais c'est pour ça aussi, je pense que.
Ouais, ça joue. Ouais.
On a l'impression que c'est une musique qui apporte plus d'émotions, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chœurs, il y a plus de variété, plus de surprises. Moi, j'écoute plus, en tout cas, j'écoute plus du Morricone facilement que du Williams en dehors des films, même si, des ponts de John Williams, ça le fait bien. Et voilà. Et donc, moi, j'ai plus d'affect avec les musiques de Morricone qu'avec celles de Williams.
Plus varié.
Voilà, c'est pour ça que je mettrais ce point-là pour Morricone, surtout que de toute façon ça change pas le résultat final.
Non.
Mais voilà, et toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, non, mais je pense que t'as tout à fait raison là-dessus. On a moins l'impression d'être dans un même univers décliné quand on écoute Morricone.
Ouais.
Ce qu'on peut un peu avoir avec Williams. Après, il y a des moments où la première fois que j'ai pris l'avion, je me suis mis le thème d'Indiana Jones dans la tête tout de suite. C'est très clair.
C'est vrai que ça fonctionne bien. Alors, c'est le thème de... On en parlait hors thème. C'est le thème de Indiana Jones et de Turkish Star Wars.
Voilà.
Il y a aussi ça comme...
Il faut le voir, ce film. Il faut le subir au moins une fois.
Et là aussi, la musique transcende le film.
Oui. Oui, c'est vrai. Le scénario est très, très particulier. Tu sais qu'il y en a d'autres, hein. J'aimerais beaucoup voir. Il y a un Turkish E.T. et un Turkish Superman que j'ai toujours pas vu.
Ah oui, dans le podcast Nanarland, il faudrait qu'on se fasse une spéciale Turquie d'ailleurs. Hein. Je pense que ça serait pas une mauvaise idée. On en a chroniqué certains dans le podcast. Il y a pas longtemps, on a chroniqué le Turkish Avengers. avec un. Alors, je crois que c'est Spider-Man qui est méchant, mais genre sadique, quoi. Et le Turkish E.T., je l'ai pas vu, mais j'en ai vu quelques extraits. C'est violent.
Ça a l'air laid, hein.
Ah oui.
Ça a l'air très laid.
Ah oui, ça fait mal à la tête
quand,
en plus.
Quand il y a un ou deux ans, on parlait des reshoots de Man of Steel où il avait sa moustache. Oui. Mais regardez l'original, regardez Turkish Superman.
Ah oui, il a la moustache. Ah oui. C'est vrai. Et la version. Je crois que le Superman indien aussi doit avoir la moustache. Enfin bref, on diverge. Bon, donc on donne le point du meilleur musicien à Morricone alors.
Oui, on peut. Mais parce qu'on parle pas du passé des deux, où un était trompettiste, l'autre joueur de jazz, et qu'en vrai, ils touchent leur bille, hein. Tous les deux. Hein. Ils sont bons, ils sont très bons.
Ouais, j'ai l'impression qu'ils se débrouillent bien quand même.
Il faudrait que je réécoute, tiens, là, c'est ça que je voulais faire avant. Et figure-toi qu'avant d'enregistrer, j'ai ouvert un onglet, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je voulais chercher? Et je voulais chercher la BO du Terminal de Spielberg aussi, qui est, est faite par Williams, tiens. Mais qui n'est pas du tout dans un style Williams comme on connaît. Je pense qu'elle est un peu plus jazzy, ou un peu comme Arrête-moi si tu peux, un peu plus jazz.
Ah oui, c'est vrai.
Qui revient aux fondamentaux, quoi.
C'est vrai que la BO de Arrête-moi si tu peux, elle est assez différente quand même.
Ouais.
De ce que peut faire.
Ils avaient du jazz au début. Hein. Ils ont tous les deux commencé comme musiciens et dans des styles différents, mais ils ont tout. Le côté trompettiste pour Morricone fait que dans ses compositions, forcément des cuivres. Très souvent. Ouais. Et chez Williams aussi.
Oui. Oui, clairement. Et bon, bah écoute, c'est John Williams qui remporte le duel. Il fallait bien choisir, hein, comme on disait, hein, choisir, c'est facile. Renoncer, c'est comme ça. Ouais. Pour conclure, est-ce que tu te sentirais de dire quels sont tes trois thèmes préférés de l'un et de l'autre? Ou en dire trois, pas forcément tes trois préférés, mais juste trois, comme ça, qui tiennent et que tu as envie de retenir. Trois que t'écoutes souvent, ou qu'on connaît moins, je sais pas. Ce que tu veux, en fait.
Pour le coup, non, enfin, je vais pas être surprenant sur Morricone, parce que ça va être ses grands classiques du bon, la brute et du truand, ou Il était une fois dans l'Ouest, qui passent tout le temps, et qu'on peut presque s'écouter en boucle, parce que quand c'est fini, on en veut encore.
Ouais. Clairement.
Mission, très très bon thème. Le thème de Mon nom et personne est magnifique aussi. Même celui avec les klaxons, sympa. Et chez Williams, il y en a beaucoup que j'écoute en boucle aussi, quoi. C'est il y en a où je suis moins fan. Par exemple, Indiana Jones, je suis moins fan. Je trouve qu'il est très stéréotypé.
Même c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est un peu le cas aussi de Superman, et c'est
pareil.
Et c'est aussi effectivement, je trouve que c'est pas ce qu'il a fait de mieux non plus. Pourtant, c'est resté. Hein. Mais
Ouais, parce que oui, ça représente le personnage, mais après, c'est pareil, on l'a maintenant avec du recul, ces thèmes-là. Donc on les entend différemment. Mais je pense pas qu'ils aient l'aura du thème de Star Wars, Harry Potter ou de Maman, j'ai raté l'avion. Je trouve encore une fois, sûrement dans ses meilleures partitions.
Oui. Oui, Maman, j'ai raté l'avion, c'est aussi un peu différent quand même. Peut-être non. Ça fait presque.
C'est assez fou comme il arrive à bien le retranscrire. Presque à se l'approprier.
On dirait presque du Goldsmith en fait.
Ouais, par moment, ouais. Et E.T.
Putain, ouais, E.T. Pas mal, E.T.
Ouais, carrément. Ouais.
C'est marrant parce que E.T. c'est vraiment un film que j'aime pas trop en fait. Mais je trouve qu'il se passe vraiment un truc avec la musique, quoi.
Ouais, elle est magique.
Ouais,
totalement magique.
Vraiment, vraiment. Et malgré tout, c'est un film qui me pose problème sur plein d'aspects. Mais quelle musique, quoi. Quelle musique.
Ouais.
Bah écoute, moi, si je devais en citer trois, Morricone, ça serait clairement The Thing. Je trouve.
Ouais, c'est fou.
Ce thème extraordinaire, et ce film extraordinaire, de toute façon. Le thème de Il était une fois dans l'Ouest. Et puis le thème de Mission, ouais. Et genre, j'ai toujours pas vu le film en fait, mais j'adore la musique.
Ouais, elle est vraiment belle. Ouais.
Je procrastine de voir le film depuis super longtemps parce que je sens que ça va me.
Ouais, j'ai eu ça un va peu. Me, ça... quand tu le verras, tu me diras, mais j'ai eu un peu le même ressenti, moins que sur Le Professionnel où vraiment ça m'a gonflé, mais je répète, c'est très personnel. Mais où il y avait un thème magnifique, mais qu'on réutilisait un peu tout le temps. Et ce côté répétitif est un peu. Je considère que la. Après, c'est ma vision de la musique de film, mais autant là, on parle des grands thèmes et de grands compositeurs, autant la musique, elle est là pour accompagner l'image, quoi. Donc, on n'a pas toujours besoin d'un thème. Parfois, il faut se faire discret, il faut que ça soit de l'ambiance. Et sur ces films-là, on ne les retrouve pas. sur les Léones que j'ai vus, oui, on les retrouve un peu plus, mais sur Mission ou le professionnel, je trouvais que ça manquait d'accompagnement.
D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant.
Et mais tu sais jamais comment ça se passe dans la production, quoi. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est pareil, on parle des grands du Spielberg Williams. Est-ce que Williams n'a pas travaillé pour un autre un jour et ça s'est pas super bien passé? Il y a eu qu'un thème où on l'a bridé ou lui voulait pas. Enfin, tu sais pas en fait si ça vient du compositeur lui-même ou du souhait du réalisateur ou les deux, qui fait que parfois bah ça colle pas et il manque quelque chose.
Ah bah le grand échec de John Williams, c'est la musique d'Interville. Ça, il... il était très déçu. Et il n'a plus jamais travaillé en Europe après.
Tu m'étonnes.
Bon, je laisserai les auditeurs vérifier si cette information est avérée ou pas.
Ouais, mais Guilux, il avait un melon aussi. Non,
écoute, John, ta musique, ça va pas, là.
On a appelé un morceau top à la vachette. MP3. Ça aurait de
bon,
la gueule.
Mais,
hein.
Ben,
mais il a fait des merdes, de quand même. Hein. On n'a pas parlé des merdes, mais ils en ont fait, quand même.
Oui.
Tu vois,
oui.
La fin, les changements qu'il y a eu dans Star Wars, aujourd'hui, il y a 36 000 versions, là. Je sais même pas laquelle est la bonne. Ils ont changé la musique de fin, quand même, mais ils ont bien fait, hein, parce qu'au début, c'était quand même pas terrible.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, quand tu vois le nombre de trucs qu'ils ont fait l'un comme c'est l'autre, il y a forcément un moment donné où ils sont en mode automatique, quoi.
De la même manière où tu peux pas leur reprocher de retrouver des similitudes entre un thème et un autre, parfois, parce que bon, c'est leur style aussi qui fait qu'il y a des automatismes.
Ouais. Non, mais c'est sûr. C'est certain. Bon, ben, merci beaucoup, David.
Ben, merci à toi.
D'avoir accepté de choisir entre...
Et la plupart du temps, j'ai pas pu, mais bon.
Deux musiciens qui... Oui. La plupart du temps, t'as pas pu, mais bon. T'es quand même un peu... T'es quand même arrivé. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur badgeek.fr, parce que je gère cet asso tant bien que mal depuis une dizaine d'années, pour aider le podcast un peu à vivre et à garder son indépendance surtout.
Ouais.
Et aider les jeunes qui se lancent à savoir à peu près quel type de matos il leur faut, tout ça. Enfin, on aide les gens qui veulent se lancer.
Ouais.
Et donc, Festival Podren, si tout se passe bien, de retour en 2022. Parce que 2021, honnêtement, là, on sait pas. On a la jauge à moitié, on sait pas si on le fait en ligne ou en vrai. Bon, on verra.
Compliqué, ouais.
Compliqué. Il y a un devoir de sécurité aussi, donc on va voir. Et puis sinon, bah, pour ce que je fais pour la musique sur mon site davidrampillon.com, si jamais mais vous allez vous faire chier, faut pas y aller en fait. Non, n'y allez pas.
Si, allez-y. J'ai passé une matinée à écouter tes musiques. Si.
Pour Afterlife, mais il faut faire un coucou ego, alors c'est grâce à lui.
Alors j'ai écouté Afterlife, j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit. Et non, j'avais écouté les musiques sur ton site, tes autres musiques, qui sont de grande qualité.
Merci. Merci bien. C'est gentil.
Non, mais je t'en prie. Et dans quel podcast on te retrouve?
Ah oui, non, mais là, après. dans un truc qui s'appelle Ça va trancher, qui est difficile à écouter, qui est un vrai gros bordel plus ou moins organisé, qui est pas toujours très finaux, mais qui est souvent rigolo quand même.
Oui.
Et on essaye de... quand on peut, on essaye au milieu d'arrêter les conneries, de faire intervenir des gens pour parler d'un truc de société et d'être sérieux 5 minutes. Et après, on reprend les conneries.
Enfin, vous avez connu Georges Brassens comme invité.
Voilà.
Et ça.
Ça, c'est pas. Non, depuis 40 ans, je crois qu'on est les seuls.
Et ça, franchement.
Sans vouloir m'inventer.
Chapeau.
Ouais. On en a reçu d'autres, hein. Des Pérusses et compagnie, mais Georges Brassens, c'était quand même grave la classe.
C'était la classe.
Ouais, on prépare un album avec lui, ça va être bien pour Noël, là. On va sortir ça.
J'espère qu'il y aura la reprise de Tragédie, en tout cas. Eh ben, écoutez, moi, il me reste plus qu'à dire au revoir à tout le monde, hein, à rappeler que C'est qui le plus fort est un podcast...
Micro Stockholm. Vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee ou pas, c'est comme vous voulez. Ça nous fera plaisir, mais c'est pas obligé. Juste une écoute, un partage, des retours sur l'émission aussi, des infos complémentaires que vous voudriez apporter sur les uns et sur les autres. Ça sera pris avec avec plaisir et ça sera partagé. Voilà. Et ben, David, à bientôt.
Avec plaisir, oui.
Et puis, chers auditeurs et chères auditrices, à bientôt et portez-vous bien.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.